VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 27 octobre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Nanit Talani.
Pour commencer, les titres.
Au Soudan, le premier ministre renversé Abdallah Hamdok, ramené chez lui, tire de gaz lacrymogène sur les manifestants anti-armés.
Les États-Unis s'inquiètent d'un éventuel déploiement de mercenaires russes au Mali.
Échange à Kigali entre le Français Jean-Yves Le Drian et l'Algérien Ramtane Lamamra en marge d'une réunion de pays membres de l'Union européenne et de l'Union africaine.
Au procès des assassins présumés de Thomas Sankara à Ouagadougou, un membre du commando reconnaît les faits.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, les forces de sécurité ont usé hier de gaz lacrymogène contre des manifestants qui bloquaient les routes dans Khartoum pour protester contre le coup de force des militaires. Le point avec Michel Joseph.
Le premier ministre Abdallah Hamdok, retenu depuis le coup d'État, a été ramené chez lui hier à Khartoum. Selon un responsable militaire, des mesures de sécurité ont été mises en place autour de son domicile, sans préciser s'il était assigné à résidence. Depuis lundi, des milliers de Soudanais sont mobilisés contre l'armée à Khartoum et sa ville jumelle Omdurman. Les forces de sécurité ont été déployées avec des blindés. En soirée, elles ont tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants pour dégager un important axe routier dans la capitale. Lors de sa conférence de presse hier, le général Abdel Fattah al-Burhan a défendu son coup de force après la dissolution, la veille, des institutions et l'arrestation de ministres et responsables civils. Mardi, les ambassadeurs du Soudan auprès des États-Unis, de la France, de la Belgique et de la Suisse ont dénoncé ce coup d'État. Les États-Unis ont annoncé la suspension de 700 millions de dollars d'aide au Soudan. Les vols vers et depuis Khartoum ont été suspendus jusqu'à samedi.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu par téléphone hier avec M. Abdallah Hamdok. Et selon un communiqué du département d'État, M. Blinken se réjouit de la libération du premier ministre et renouvelle son appel aux forces militaires soudanaises pour qu'elles libèrent tous les dirigeants civils en détention et garantissent leur sécurité.
Par ailleurs, les États-Unis s'inquiètent d'un éventuel déploiement de paramilitaires russes au Mali. Dans un communiqué, Linda Thomas-Greenfield, la représentante permanente américaine aux Nations Unies, a fait part de ses inquiétudes. Le point avec Jenny Kapumbu-Villa.
J'ai exprimé notre sérieuse inquiétude au sujet des informations selon lesquelles des mercenaires russes pourraient être déployés au Mali, a-t-elle déclaré à l'issue d'un entretien à Niamey avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Madame Linda Thomas-Greenfield fait partie d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est rendue le week-end dernier à Bamako afin de faire pression pour le rétablissement du pouvoir civil au Mali. La délégation s'est ensuite rendue au Niger. La représentante des États-Unis à l'ONU a estimé que les paramilitaires russes sont pointés du doigt dans des abus sur des civils et que leur présence va aggraver probablement la situation sécuritaire actuelle. La France et l'Allemagne ont prévenu qu'un accord entre Bamako et Wagner remettrait en cause leur présence militaire au Mali. Paris accuse le groupe Wagner de se rémunérer sur les ressources des pays d'accueil comme le Centrafrique ou la Libye et de servir les intérêts du Kremlin. Ce que dément catégoriquement le président russe Vladimir Poutine.
Au Burkina Faso, premier des accusés à s'exprimer au procès des assassins présumés du père de la révolution burkinabé Thomas Sankara en 1987, un soldat a reconnu hier les faits d'attentat à la sûreté de l'État et raconté les détails de l'assassinat. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant Lamine Traoré.
Au Gabon, la justice a requis hier 5 ans de prison contre Brice Lacruche Alihanga, l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, incarcéré depuis 22 mois et poursuivi notamment pour obtention frauduleuse de documents administratifs. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP son avocat. Nommé directeur du cabinet présidentiel en 2017, M. Lacruche, franco-gabonais de 41 ans, était devenu le véritable amphore du pouvoir après l'accident vasculaire cérébral du président Bongo en octobre 2018, qui avait laissé le président très affaibli et absent de longs mois du pays.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a eu un bref échange avec son homologue algérien Ramtane Lamamra. C'était hier à Kigali sur fond de nouvelles crises diplomatiques entre les deux pays. Je l'ai croisé, nous avons eu un échange de courtoisie en marge d'une réunion de pays membres de l'Union européenne et de l'Union africaine, a déclaré Jean-Yves Le Drian à l'AFP. Les deux ministres ont notamment parlé du processus de transition en Libye qui fera l'objet d'une conférence internationale le 12 novembre à Paris.
Les États-Unis et l'ONU ont imposé des sanctions à un Libyen accusé d'abus horribles contre des migrants africains dans un centre de détention non loin de Tripoli, la capitale libyenne. Le point avec Nathalie Barge.
Osama Al-Kouni Ibrahim est le dirigeant de facto d'un centre de détention de migrants à Zawiya, en Libye. Lui ou des personnes sous sa direction ont perpétré des abus horribles contre les migrants, dont des meurtres, des violences sexuelles et des coups et blessures, a déclaré hier dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Il appelle les autorités libyennes à lui faire rendre des comptes. Ses éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au système financier américain lui est désormais interdit. Pour le Trésor américain, à l'origine de ces sanctions, Osama Al-Kouni est décrit comme un baron du trafic de migrants et responsable d'une exploitation systématique des migrants africains dans ce centre surnommé aussi Prison Osama, à 50 km de Tripoli. D'ailleurs, l'ONU l'a ajouté lundi à sa liste des sanctions. La ville de Zawiya est un important point de passage pour beaucoup de migrants venus d'Afrique subsaharienne cherchant à rejoindre l'Europe. Les ONG et agences de l'ONU dénoncent régulièrement les conditions déplorables dans les centres de détention où passeurs et trafiquants ont profité ces 10 dernières années du climat d'instabilité qui a fait de la Libye une plaque tournante du trafic d'êtres humains.
Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé hier qu'il souhaitait gérer le problème des migrants au niveau européen et a souhaité un nouveau traité Europe-Afrique pour prévenir les migrations. L'un de mes objectifs sous présidence française de l'Union européenne est d'essayer de rebâtir un traité de paix et d'amitié avec l'Afrique où une des données sera comment les Européens donnent la capacité à la jeunesse africaine d'avoir des opportunités dans son continent, a-t-il plaidé lors d'un dîner de bienfaisance organisé à Paris par un réseau d'entrepreneurs protestants.
C'est une cérémonie à forte valeur symbolique qui se tiendra ce mercredi à Paris. La France actera la restitution prochaine au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, conservées jusqu'ici au musée du Quai Branly. Le président français Emmanuel Macron présidera la cérémonie qui se tiendra à 16h au musée parisien abritant des milliers d'œuvres africaines en partie pillées pendant la colonisation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont prévu de se rencontrer vendredi à Rome en Italie avant le sommet du G20. L'annonce a été faite hier par Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les précisions de John Lindon.
La Maison-Blanche n'a pas donné davantage de détails sur cette rencontre qui aura lieu juste avant que ne débute le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 20 plus grandes puissances économiques à Rome. Ce sera la première fois que les deux hommes se verront en personne depuis la crise provoquée par l'annonce mi-septembre d'une nouvelle alliance entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Ce partenariat baptisé AUKUS a suscité une rare colère de la France car il a torpillé un méga contrat de sous-marins français passé avec les Australiens. Depuis, Washington s'efforce d'arrondir les angles. Joe Biden et Emmanuel Macron ont déjà parlé deux fois au téléphone depuis cette crise. Par ailleurs, la vice-présidente américaine Kamala Harris doit se rendre à Paris en novembre. Outre sa rencontre avec Emmanuel Macron, Joe Biden, un catholique, doit aussi rencontrer le pape François. Après Rome, le président américain se rendra à Glasgow qui accueille la COP26 sur le climat.
Un comité d'experts américains s'est prononcé hier en faveur de l'immunisation des 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19, présageant d'une autorisation très prochaine pour quelque 28 millions d'enfants aux États-Unis. La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
La société ad hoc Codeni Solar a signé un partenariat public-privé avec le gouvernement burkinabé pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 38 MW près de Bobo-Dioulasso, lancée par la société française Africa-REN. Le Burkina Faso veut construire d'ici 2025 plusieurs centrales capables de produire au total 500 MW d'énergie renouvelable à un prix compétitif selon l'agence Ecofin. Le Rwanda et la France normalisent leurs relations bilatérales. Franck Riester, le ministre français du commerce extérieur, est à Kigali mercredi pour stimuler les liens commerciaux entre les deux pays. Une délégation d'entreprises et d'opérateurs économiques français accompagne le ministre. Monsieur Riester sera au Kenya jeudi et vendredi. Le Maroc table sur un investissement public record de 240 milliards de dirhams, soit plus de 23 milliards d'euros, pour remettre sur pied son économie fortement ébranlée par la crise sanitaire, a indiqué mardi la ministre de l'économie.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît les oppositions de l'ultime étape avant la phase de poule de la Coupe de la CAF. La Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort du tour de cadrage. Après son élimination surprise en Ligue des champions par les Sud-Africains d'AmaZulu et donc reversée en Coupe CAF, le tout-puissant Mazembe fera encore face à un autre club sud-africain, Marumo Gallants FC. Les autres Congolais de l'AS Maniema Union héritent des Égyptiens du FC Pyramide. Le DC Motoma Pembe se frottera à l'US Gendarmerie Nationale du Niger. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa croisent les Angolais du GD Interclub. À suivre aussi, Coton Sport de Garoua FC Noir Dibourg de la Mauritanie. Le stade malien devra attendre que la CAF décide de l'issue du match Al Ahly Tripoli, Biachara United pour connaître son adversaire. Les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane jouent les Rwandais d'APR FC. Les matchs aller sont prévus pour le 28 novembre et ce retour le 5 décembre. Les 16 qualifiés joueront la phase de groupe de la Coupe CAF. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré qu'Eden Hazard est apte à jouer mais qu'il lui préférait pour le moment d'autres joueurs. Dans le 11 de départ madrilène, Eden Hazard est sorti en fin de rencontre lors de la demi-finale de Ligue des Nations le 7 octobre dernier contre la France, perdu 3-2, touché à la cuisse. Finalement, rapidement de retour, Vinicius Junior et Rodrigo, lui, sont cependant préférés. Les deux joueurs étaient titulaires lors de la victoire madrilène 2-1 à Barcelone dimanche. Tandis qu'Eden Hazard s'est assis sur le banc, arrivé au Real Madrid en provenance de Chelsea pour 100 millions d'euros. Il y a deux ans, le Belge a connu deux années difficiles, gâchées par de nombreuses blessures. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour aider les athlètes afghans à être relogés dans des pays tiers après le retour au pouvoir des talibans en août en Afghanistan, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Plus de 150 athlètes afghans, parmi lesquels 50 footballeuses, ont été évacuées courant octobre vers le Qatar avec leurs familles en coordination avec la FIFA. Mais des centaines d'athlètes se trouvent toujours en Afghanistan et ne demandent qu'à partir. Je demande vraiment à tous les gouvernements en Europe et dans le reste du monde de nous aider à obtenir un nouveau foyer pour ceux qui ont déjà été évacués, a déclaré M. Infantino. Joyce Cook, responsable des questions sociales et de l'éducation à la FIFA, a indiqué que 158 personnes de la communauté sportive et leurs familles quitteraient Doha pour se rendre en Albanie jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit trouvée. Elles font partie d'une liste de 545 personnes qui cherchent à partir, a-t-elle précisé.
Merci Yacouba. Pour terminer, quelques résultats NBA. New York et Philadelphie, 112 à 99. Golden State Warriors et Oklahoma City, 106 à 98. Los Angeles Lakers et San Antonio Spurs, 125-121. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons se poursuit. Hier, le premier accusé, Yamba Élisée Ilboudo, un chauffeur militaire au moment des faits, était à la barre. Il a plaidé coupable mais nie toute implication, affirmant n'avoir posé aucun acte le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente où Thomas Sankara a été assassiné. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le premier accusé est arrivé hier à la barre. Il s'agit de Yamba Élisée Ilboudo, 62 ans, un soldat de rang, chauffeur de Blaise Compaoré et de Yassine Kafando, tous des accusés dans ce dossier. Cet accusé est l'une des pièces maîtresses du dossier car ayant conduit une partie du commando qui a assassiné le 15 octobre 87 Thomas Sankara et ses compagnons. Mais à la barre, Yamba Élisée Ilboudo est formel. Il n'a rien fait au conseil de l'entente ces jours. Il est resté dans son véhicule et a assisté à la scène macabre. Ferdinand Jamen Zepa, avocat de la famille Sankara.
C'est le seul qui a dit un certain nombre de choses. C'est lui qui a même permis à la procédure d'avancer. Donc il était important qu'il puisse s'exprimer devant le public parce qu'il a parlé devant le juge d'instruction à plusieurs reprises. Il a dit un certain nombre de vérités. C'est lui qui décrit le mode opératoire du commando. C'est lui qui décrit où ils sont partis, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés et comment les faits sont produits. Il avait dit un certain nombre de choses devant le juge d'instruction et vous vous êtes aperçu aujourd'hui qu'il avait un peu de trou de mémoire. On ne sait pas si c'était volontaire ou pas volontaire. Donc voilà un tout petit peu la situation dans laquelle on s'est trouvé. Le parquet a eu du mal à poser des questions, à obtenir des réponses. J'ai essayé, à mon modeste niveau, de l'amener à parler en le mettant en confiance. Mais vous avez vu que le personnage, il n'est pas facile. Il a certainement des pressions.
L'avocat de l'accusé pense que l'attitude de son client n'est pas une ligne de défense. Maître Eliane Kabore, avocat de Yamba Élisée Ilboudo.
Non, c'est pas une ligne de défense. De toute façon, l'instruction continue. Nous verrons quels sont les arguments que nous allons avancer. C'est mieux de suivre. En tant qu'avocate, je réserve ma ligne de défense. C'est le rôle du parquet d'instruire. Je pense que l'instruction se fait normalement. C'est leur rôle de poser des questions. C'est le rôle de la partie civile aussi de comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. C'est vrai, je suis commise d'office pour le défendre. Donc si j'ai des arguments à avancer, je les avancerai après que le tour de parole soit donné.
La veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, qui assiste à ce procès depuis le début, était prise d'émotion. Mais elle affirme que les parties civiles ne cherchent que la manifestation de la vérité. Mariam Sankara.
Vous avez entendu ce qu'il a dit et puis on dit aussi ce qu'il a dit, qu'il a déclaré à l'instruction. Bon, en tout cas, le souhait est qu'ils disent la vérité pour qu'on puisse connaître ce qui a été réellement fait.
L'audience a été suspendue et va reprendre ce mercredi toujours avec l'audition de l'accusé Yamba Élisée Ilboudo. 11 autres accusés, dont le général Gilbert Dienguéré, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour sa tentative de coup d'État en 2015, attendent de passer à la barre. Blaise Compaoré et Yassine Kafando, deux principaux accusés, sont les absents de ce procès. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, un élève de l'école Don Bosco a été tué et deux autres blessés lors d'une opération de police pourchassant les bandits. Mais les parents des victimes rejettent les accusations de la police, affirmant que leurs enfants sont bel et bien des élèves et qu'ils revenaient des cours. L'ONG locale, le CAD, a promis d'apporter son soutien aux familles. Le point avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Nous sommes à Don Bosco, un quartier périphérique de Talangaï à Brazzaville. Ici, une école permet de récupérer les jeunes désœuvrés pour leur apprendre un métier. Mais c'est ici aussi qu'un élève a été abattu de sang-froid par la police qui l'a pris pour un bandit communément appelé Kuluna. Deux autres élèves ont été blessés par balle. Un des rescapés qui a reçu la balle sur le côté témoigne.
Il y avait un policier qui est sorti là, on lui appelle Boulot. Il a commencé à tirer des tirs de balles comme ça. On était obligé de fouiller nous tous là. Lui nous a rattrapés et puis il a tiré encore trois balles. C'est la troisième balle qui est venue prendre nos dos ici. J'étais obligé de continuer à fouiller. Et puis, il est venu là, il a rattrapé l'autre petit là. Et lui, il a tourné comme ça, il a tiré droit au cœur. J'ai saigné. Mais j'avais pris mon habit pour un peu fermer la plaie là.
Sa mère, Micheline Claudette, s'est fait entendre au commissariat de police que c'était une balle perdue et qu'elle devrait seule s'occuper des soins de son fils. Micheline Claudette, qui défend que son fils n'est pas un Kuluna, n'en revient pas.
Je voulais rencontrer le commissaire. Il n'a pas voulu me recevoir. Ils m'ont dit que madame partait avec l'enfant. Même en France, quand on poursuit les taureaux, il y a les balles perdues. Donc, va seulement avec ton enfant à l'hôpital. Hein. Moi, j'ai dit, faites-moi même un mot pour que je ne veux pas arriver à l'hôpital comme pour se refuser de traiter mon enfant pendant qu'il est en train de souffrir avec la balle. Ils m'ont dit, pars seulement à l'hôpital. Hein. Moi, je dis que rien n'arrive de mal à mon enfant.
Sur le lieu du deuil où les parents pleurent, le jeune élève décédé, la police a dispersé la veillée. C'est un bandit qui ne mérite aucun hommage, argue la police. Mais les habitants du quartier rejettent ces accusations.
Ici, là, il n'y a pas de Kuluna. Depuis qu'on est dans ce quartier-là, on n'a jamais vu les Kuluna. Ils sont pour se battre avec les gens, les coupes-coupes ici, là. Ça ne se fait jamais. On était surpris par rapport à la mort de le petit qui est mort, là.
La société civile a aussitôt dénoncé les agissements de la police. Le Centre d'action pour le développement CAD s'engage à porter le dossier devant la justice. Monica Ngalola est la responsable juridique du CAD.
Nous, nous qualifions cela des actes barbares au milieu scolaire. Et ce matin, j'ai été au parquet pour déposer une demande d'assistance juridique pour qu'afin que le médecin légiste puisse faire l'autopsie, il faut réunir toutes les preuves et pour que justice soit rendue en faveur de cette famille.
Dans sa lutte contre le banditisme au milieu juvénile, la police s'est plusieurs fois rendue coupable d'exécutions sommaires. Mais les auteurs de ces crimes ne sont jamais inquiétés. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La coalition Missing Voices, composée de 16 groupes de défense des droits civiques dont la mission est de mettre fin aux disparitions et aux meurtres au Kenya, a récemment rencontré à Nairobi des mères de victimes et des survivants d'abus policiers présumés. La coalition a aussi lancé « They Were Us », un livre sur le sujet. Elle dit avoir documenté 119 assassinats et 23 disparitions forcées entre janvier et septembre de cette année. La police nie les accusations. Reportage de Mohamed Youssouf dans la capitale kenyane. Récit de Jacques Aristide.
Lilian Njeri, une mère de famille âgée de 48 ans, accuse la police kenyane d'avoir tué son fils et deux autres personnes dans le quartier de Kiamaiko à Nairobi. C'était en mai 2018.
Après le meurtre de mon fils, j'ai voulu me suicider. Mon autre fils m'a demandé qui s'occuperait de lui si je me suicidais. Je buvais beaucoup. Depuis que j'ai rejoint le réseau de femmes dont les enfants ont été tués, cela m'a aidé à surmonter ma tristesse et à défendre les autres.
Lilian Njeri dit avoir référé l'affaire à l'autorité indépendante de surveillance de la police, ou l'IPOA. En septembre dernier, 5 officiers ont été inculpés à Nairobi du meurtre d'un homme en 2018, arrêté pour possession illégale d'alcool. Les enquêteurs de l'IPOA ont conclu qu'il était décédé des suites de multiples blessures. Le mois dernier, la présidente de l'IPOA, Anne Makori, a indiqué que l'autorité enquêtait sur 98 cas d'abus policiers présumés. Depuis 2010, il y a eu 8 condamnations. D'après la coalition Missing Voices, près de 170 Kenyans ont été tués ou sont portés disparus en 2020. Pour ce qui est de la mort de 157 de ces personnes, les forces de l'ordre sont montrées du doigt. Bruno Chiozo, le porte-parole de la police kenyane, affirme que ces allégations sont sans fondement.
I think it's wrong to say that police have killed youth because they don't have that data, they don't have that information.
Il est faux de dire que la police a tué des jeunes parce que nous n'avons pas ces données, ces informations. Ce sont des allégations farfelues, mais lorsque vous leur dites de se manifester et d'apporter des preuves ou quelque chose de tangible, personne ne se présente. Il nous est donc très difficile de réagir à quelque chose sans aucune preuve.
Le livre publié par Missing Voices met en lumière les cas de brutalité policière, de même que les victimes présumées. Aileen Wanjiku de cette coalition indique que la plupart des familles n'ont pas encore obtenu justice pour la mort de leurs proches.
C'est un défi, un problème même pour obtenir une enquête. Le simple fait d'aller devant le tribunal est un problème. Et une fois au tribunal, c'est toujours renvoyé. La raison pour laquelle beaucoup de ces cas n'ont pas fait l'objet d'une enquête et beaucoup de témoins ne veulent pas se manifester. Des témoins ont été tués pour s'être manifestés.
Joséphine Acotte, 50 ans, est l'une de celles qui figurent dans le livre de 64 pages. Son fils Sylvester Nyango a disparu en août 2015.
Je demande au gouvernement de m'aider à retrouver mon fils et à savoir s'il est vivant ou s'il est mort. S'il est mort, j'aimerais savoir où il a été tué. Au moins, je pourrais ramasser les restes et les enterrer.
Le mois dernier, dans le comté de Garissa, 16 corps mutilés ont été récupérés de la rivière Tana, la plus longue rivière du Kenya. Les familles des victimes et la coalition Missing Voices demandent la mise en œuvre d'une loi datant de 2017. Et qui permet aux professionnels indépendants d'enquêter sur les cas non résolus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Amnesty International a lancé un appel hier aux autorités des Émirats arabes unis pour qu'elles ouvrent une enquête après une vague d'arrestations et d'expulsions visant des travailleurs africains. L'organisation parle d'expulsions ciblées en fonction de leur appartenance raciale. Le gouvernement les accuse d'être impliqués dans une traite d'êtres humains. Amnesty International dit avoir interrogé 18 personnes parmi les 376 expulsés au mois de juin lors de cette opération. Pour en savoir plus, Abdulrahman Dia a joint à Paris Lynn Malouf, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International.
Ce que nous avons trouvé en faisant notre recherche, en parlant à 18 de ces personnes qui ont été expulsées parmi ce groupe de 375 personnes, c'est que d'abord, ces chefs d'accusation qui ont été portés contre eux et qui ont justifié, si vous voulez, leur expulsion, en fait, il n'y a eu aucune procédure légale. Donc, toutes ces arrestations, les interrogatoires, en fait, ont été toutes calquées sur une pratique bien établie qui était l'arrestation arbitraire, mais aussi ce qu'on a découvert, c'était que c'était des arrestations à caractère raciste, parce que toutes les personnes ciblées étaient des Africains ou Africaines noires. Et donc, qui nous a porté à conclure justement que ces arrestations étaient à caractère raciste.
Alors, toutes ces personnes sont en règle selon vos enquêtes?
Oui, alors toutes les personnes, nous avons nous-mêmes vérifié justement tous leurs papiers. Sur les 18 personnes, 17 avaient déjà leurs papiers en règle. Une des personnes avait ses papiers en règle, mais n'était pas à même de montrer ses papiers parce qu'ils étaient en train dans l'administration. Mais au-delà de ça, enfin, Amnesty International, de toute façon, prend position contre des arrestations et des détentions pour raisons administratives liées à leur statut de migration. Ici, en tout cas, les charges d'accusation ne sont pas liées à leur permis de travail, à leur possibilité de résider dans le pays.
Oui, et ces personnes expulsées, qu'est-ce que Amnesty demande pour elles?
Alors déjà, dont l'État s'est pris envers ces personnes-là, donc immédiatement mettre fin à des arrestations, quelles qu'elles soient. Alors ici, on l'a su parce que Reuters a révélé la nouvelle. Nous avons réussi à faire suite et pouvoir parler à des personnes parce qu'elles s'étaient déjà retrouvées en dehors du pays. On a appris donc pendant ces témoignages les conditions totalement inhumaines et insalubres dans lesquelles ces personnes-là ont été détenues. détenu pendant jusqu'à 2 mois où il n'avait aucun contact avec l'extérieur. Donc ce qu'on demande, c'est d'abord un arrêt immédiat à tout genre d'arrestation ou d'expulsion qui ont soit un caractère raciste.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia, de Nanit Talani et de Michel Joseph, et aussi de Joubert El Taïb. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.